Bonsoir d'en savoir plus sur Radio Grand-Ciel. Bonjour à tous, au micro Elisabeth Couget. Je n'ai pas d'invité aujourd'hui, mais j'ai prévu de vous amener en voyage, ou plutôt vous parler des pays où les touristes habituellement ne sont pas très nombreux. Alors je vous propose de faire la connaissance de plusieurs pays des Balkans peu connus du grand public que j'ai découvert cet été. Alors je reconnais qu'avant le départ, j'ai eu quelques idées préconçues vis-à-vis de ces pays, mais elles se sont évaporées une par une au cours du voyage que nous avons commencé à Budapest. Car pour rejoindre les Balkans depuis Chartres, nous devions passer par l'Europe centrale. Après l'Allemagne, puis l'Autriche, nous avons atteint la Hongrie et sa belle capitale Budapest, surnommée, et non sans raison, la perle du Danube. Après une halte dans cette belle ville, nous sommes donc partis en direction du sud pour rejoindre quelques 800 km plus loin notre première halte. Il fallait pour cela traverser une partie de la Serbie avant d'arriver à Skopje, la capitale de la Macédoine. Et là, quelle bonne surprise! C'est une très belle ville qui nous a accueillis avec de très beaux bâtiments, un monument élevé à l'honneur de Mère Teresa, de très belles églises, de très belles mosquées, des bains turcs dont un a été transformé en musée dans la vieille ville où les peintres macédoniens exposent leurs œuvres. Et sans oublier l'immense forteresse du 9e siècle construite par le grand roi Samuel. Alors Skopje est scindé en deux par la belle rivière Vardar et la ville est entourée de magnifiques collines dont une est ornée par une immense croix haute de 60 mètres qui est visible de plusieurs dizaines de kilomètres à la ronde, surtout dans la nuit, lorsqu'elle est illuminée. Alors n'oubliez pas que la Macédoine est le pays natal d'Alexandre le Grand, dont le souvenir est très présent partout.
Thank you.
Bien sûr, notre programme ne nous permettait pas de visiter tout le pays, mais après Skopje, nous sommes allés à Ohrid, qui se trouve au bord du lac du même nom, à quelques centaines de kilomètres au sud de la capitale. Le lac et la ville se trouvent en altitude à environ 700 mètres au-dessus de la mer. Le lac est bordé de montagnes dont certaines culminent à plus de 2000 mètres. Le lac d'Ohrid est partagé entre trois pays. En outre de la Macédoine, la Grèce et l'Albanie peuvent s'en accueillir. Ohrid est une ville millénaire, enfermée entre ses vieilles murailles. Elle est un concentré de l'histoire macédonienne, une énorme forteresse construite, comme à Skopje, par le roi Samuel, surplombe le lac. La vieille ville est splendide, dont l'artisanat est bien riche. La cathédrale Sainte-Sophie et ses magnifiques fresques, des chapelles rupestres, des églises comme Saint-Clément sont à visiter absolument, ainsi que le théâtre antique, construit par les Grecs, que plus tard les Romains ont transformé en arène, où de nombreux sièges portent encore inscrits en grec ancien les noms des familles qui louaient ou achetaient leurs places de spectacle. Non loin de là se dresse la forteresse et les spectateurs, car depuis 2002, les spectacles y ont lieu, jouissent d'une vue exceptionnelle sur le lac. L'église Saint-Nicolas, tout près du théâtre, enferme d'extraordinaires fresques, dont les plus anciennes datent de 1330. Alors, autour de la ville, beaucoup d'autres endroits intéressants vous attendent, comme le splendide monastère Saint-Nôme, construit en 900, perché au-dessus du lac, etc., etc. On ne peut tout énumérer, mais cette ville perdue au fin fond des Balkans mérite vraiment le déplacement. Bonne chose à une fin. Et après cette belle ville d'Ohrid, nous avons pris la direction du nord de la Grèce, car notre but était la découverte des météores. Le retour en Union européenne était quelque peu décevant, car après les jolies petites villes de Macédoine, où je signale que très peu de femmes portent le voile, l'arrivée en Grèce était terne. Des villages poussiéreux nous ont surpris et étonnés. Mais plus tard, en arrivant à Kalambaka, les paysages extraordinaires nous ont laissés sans voix et nous étions vraiment émerveillés. Bien sûr, nous avons déjà vu en photo les monastères étonnants perchés en haut de ces rochers énormes qui nous donnaient l'impression d'avoir été posés là par on ne sait quel miracle. En réalité, les météores se trouvent dans la plaine thessalienne. Ces tours rocheuses placées en lisière du massif du Pindé ont été créées par la rivière Pénée et ses affluents qui, descendant du massif, ont déblayé la vallée, mais n'ont pu entamer ces bandes de grès qui aujourd'hui surplombent la campagne environnante de près de 300 mètres de hauteur. Entre ciel et terre, une soixantaine de tours sont à décompter. Dès le 9e siècle, les anachorètes ou des ermites, des moines ermites, se retirent dans les cavernes des météores, mais c'est seulement au 14e siècle que ces ermitages se transforment en monastères. Alors probablement à cause des brigandages des Serbes qui envahissent la Thessalie à cette époque-là. Alors c'était Saint Athanase, venu du mont Athos, avec 9 moines qui fondaient les grands météores, dans un lieu très difficilement accessible. Plus tard, au 16e et au 15e, entre le 15e et le 16e siècle, environ 24 monastères décorés de fresques et d'icônes existaient, malgré l'accès quasi impossible. Alors aujourd'hui, il n'y en a plus que 5 monastères où vivent encore des moines que nous pouvons visiter si nous avons le courage de monter les centaines et des centaines de marches. Mais croyez-moi, l'effort que je vous recommande est absolument nécessaire. C'est magnifique. L'étape suivante était la ville de Janina. Si vous avez lu le conte de Monte Cristo de Dumas, ce nom ne vous doit pas être inconnu. Enfin, du moins celui du pacha de Janina et de sa fille, parce qu'on en parle dans le roman. Alors, pour arriver à Janina, ou Ioannina pour les Grecs, on a dû franchir un bon nombre de montagnes. D'ailleurs, depuis que nous avons quitté la riche plaine de la Serbie, nous étions entourés de montagnes. En route, des panneaux indiquaient la présence des ours, mais nous n'en avons pas vu, hélas. Et puis, nous avons atteint la région de l'Épire et sa capitale, Janina. C'est une ville universitaire et centre commerçant. C'est une ville moderne, mais de son vieux quartier typique. Près du lac de Janina émane un parfum oriental, dû aux vieux bazars et d'anciennes mosquées, dont celui d'Ali Pacha. Il faut d'ailleurs parler de cet homme que l'on nommait aussi le Napoléon des Balkans, qui, quoique représentant le sultan dans cette région, vers la fin de sa vie, va lutter aux côtés des Grecs qui voulaient se libérer des Turcs. Capturé par les Turcs au cours de cette bataille, Ali Pacha fut exécuté et sa tombe est visible dans la forteresse byzantine dans laquelle Ali Pacha se trouvait au XIXe siècle. Le lac de Janina est en contrebas de la forteresse. Alors, les environs de la ville sont aussi très intéressants. Que vous alliez au nord à 6 km, visiter la splendide grotte de Perama ou à 21 km au sud, découvrir le site antique de Dodoni à 630 mètres d'altitude. Alors, où est né il y a environ 4000 ans un sanctuaire de Zeus situé dans une large plaine bordée de hautes montagnes parsemée d'arbres splendides plusieurs fois centenaires, dont le célèbre chêne sacré. Le sanctuaire de Zeus est entouré de vestiges d'un théâtre en très bon état, considéré d'ailleurs comme un des plus vastes et mieux conservés de la Grèce antique, d'un stade de temple, des lieux de culte, etc., etc. Dodoni n'est pas très connu, nous y étions seuls, à part un couple de Hollandais, mais dans la forteresse de Janina, nous avons rencontré un groupe d'Américains, des adorateurs de Zeus, qui visitent Dodoni d'année en année, très régulièrement. À Janina, nous étions déjà tout près de l'Albanie, notre étape suivante, qui, comme tous les pays des Balkans, ont beaucoup souffert des invasions suivies d'occupations des Turcs, et la présence de l'islam durant plus d'un demi-millénaire a considérablement marqué leur culture et leur manière de vivre. Alors nous avons passé par l'intérieur du pays, traversant des parcs nationaux splendides au milieu des lacs et des hautes montagnes, les Alpes albanaises, et des villes, bien entendu, dont l'extrême propreté nous ont vraiment surpris. Alors, comme la ville natale d'Ali Pacha, par exemple, Tepelene, que Lord Byron a visité en son temps. D'ailleurs, le visiteur est accueilli, en y arrivant, par une magnifique statue d'Ali Pacha, dont la présence se retrouve aussi dans la forteresse byzantine de la ville. Et puis, nous avons traversé et visité la ville natale de l'écrivain Ismaël Kadaré, Djirokastra, sa forteresse haute perchée, ses constructions en espalier, ses musées, etc. Alors, notre projet nous dirigeait vers le Monténégro, donc vers la ville de Shkodër, au bord du lac de même nom. Les Albanais ont un héros national dont il faut parler, qui au XVe siècle a lutté contre les Turcs. C'était le célèbre Skanderbeg, originaire de cette même région, où forteresses, mosquées, églises se succèdent et se trouvent côte à côte, dont l'endroit le plus célèbre est la forteresse Rozafa, scène de lutte acharnée face aux Turcs, située en haute d'une colline au-dessus de la rivière Drin, très jolie rivière que nous avons longée durant des centaines de kilomètres à travers l'Albanie et qui, sous la forteresse Rozafa, rejoint le lac Skoder. C'est très joli comme vision de voir ça, hein.
Skove, skove, na nja rugo, kono pat more, kono pat nje djali vimo,
et nous voilà arrivés au Monténégro, à l'autre côté du lac, qu'ici on appelle le lac Skadar, et non Skoder comme en Albanie. Alors sinon, les paysages, les habitants, et qui sont d'ailleurs beaucoup, sont des Albanais, et les constructions n'ont pas beaucoup changé, du moins sur les 50 premiers kilomètres après la frontière. Les églises et les mosquées se côtoient, mais avant la guerre en ex-Yougoslavie et durant la période de Tito, donc avant 1992, la religion n'était pas très présente. En 25 ans, d'énormes mosquées et encore plus imposantes églises ont poussé comme des champignons. Le littoral monténégrin est splendide, bordé par les Alpes dinariques aux végétations foisonnantes. En face du port italien, Bari. Au Monténégro se trouve la ville portuaire nommée Bar, pratiquement comme en Italie. Cette Bar est une jolie petite ville de bord de mer, mais en arrière, contre le flanc de la montagne, se trouve le vieux Bar, la vieille ville, détruite par les Turcs il y a plus de 600 ans. Alors on peut se promener au milieu de cette ville fantôme où les ruines sont entourées de lauriers et d'oliviers millénaires. Le Monténégro est un pays pas très grand, ravissant, que je vous conseille de parcourir. En plus du bord de mer de lac Skadar, où vivent des centaines d'espèces d'oiseaux, l'intérieur du pays, avec les lacs en altitude, ses cimes recouvertes de neige éternelle, ses rivières aux couleurs émeraudes, vous enchanteront très certainement.
Oh. wśród kolorowych farban szukasz piór. Bo jesteś pewien, że wczoraj widziałeś skrzydeł cień. Dlatego klatkę zbudowałeś, lecz ona to nie.
Monténégro, nous n'avions plus qu'à rejoindre Belgrade en traversant la Serbie. La capitale serbe abrite aussi une puissante forteresse qui, en 1456, était le théâtre sanglant d'une bataille victorieuse de l'armée hongroise face aux envahisseurs turcs qui, 3 ans après la chute de Byzance, a commencé à envahir l'Europe. Alors l'armée hongroise donc, s'est battue face à ces envahisseurs. Skanderbeg de l'Albanie est venu aider les Hongrois. Ainsi, les Turcs ont été arrêtés et l'Europe chrétienne protégée de l'islam pour un siècle encore. Plus tard, Solomon le Magnifique est arrivé et vous connaissez la suite. De Belgrade, nous avons pris la direction de Budapest où nous sommes arrivés ravis de ce voyage fort intéressant de 3000 km à travers les Balkans. En préparant cette émission, j'ai espéré qu'en vous racontant notre voyage, vous allez en savoir un peu plus de ces pays de Balkans. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine émission, histoire d'en savoir plus.